Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com. Et un invité surprise, et je suis très heureux d'avoir Patrick Messel qui est ici dans les studios. Patrick, bonjour, il était un peu timide, jamais fait de la radio, approche-toi un peu des micros, voilà. Alors, Patrick qui est ardéchois
et qui a vécu une tranche de vie
entre
1983 et 1988 à Lille.
Une époque vraiment particulière.
Dans le cadre de l'ouverture d'un magasin de vêtements et accessoires de moto qui s'appelait à l'époque Daffy Moto. C'est peut-être toujours le cas aujourd'hui.
On va raconter l'histoire tout de suite, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez incroyable. Hein. On va en parler durant cette émission. Tu es là-bas en Ardèche et tu veux travailler dans la moto, dans le monde de la moto, et tu vas téléphoner en gros.
Oui, voilà. Oui,
mais on va pas en dire trop quand même. On va conserver un peu le suspense pour cette émission. Voilà.
Get it on.
aujourd'hui on a un invité que moi je vais dire exceptionnel, qu'on connaît tous ici à Kikinkout et Tupal, qu'on a connu depuis 80, voilà. Donc c'est on a Patrick Messel qui est ardéchois, hein, parce que bon, encore fidèle, hein, on dit ça. Patrick, je voudrais que là tu es remonté ici dans le nord, dans la région, pour saluer plein d'amis, hein, que tu vois ici. Mais j'aimerais que tu nous racontes ton histoire. Enfin, ça se passe début 82, enfin en 82, et tu vas donc, tu nous as dit ça, hein, tu vas au magasin Daffy à Lyon. Un petit bouclard, hein, c'était des petits bouclards avant.
Ouais, voilà, en 1982, je rame dans un cabinet d'expertise comptable et je suis motard et je fréquente le magasin Daffy Moto de Lyon. Bon, la formule me plaît et le gérant en question me dit, mais si ça t'intéresse, il se développe, il cherche des mecs un peu qui ont ton profil et va les voir. Donc je vais à Clermont-Ferrand sans rendez-vous pendant mes vacances d'été et je rencontre le PDG qui est là.
Alors, Clermont-Ferrand, c'est la maison.
C'est le siège social de Daffy Moto. Ouais. Et il me reçoit dans le magasin, entre deux rayons de casque. On s'entretient un quart d'heure. Et il prend mes coordonnées. Et puis, on se quitte un peu comme ça, quoi. Et moi, je rentre chez moi à Lyon. Et six mois après, je reçois une lettre manuscrite du PDG qui m'a reçu. Et qui me dit, vous êtes bien la personne que j'ai rencontrée dans mon magasin. Etc. Et il me dit, voilà, on a un projet d'ouverture imminent pour le printemps prochain. Et est-ce que vous êtes toujours partant? Ben, j'ai dit, ben, plus que jamais. Et là, il m'invite chez lui, à son domicile à Clermont-Ferrand. On a un entretien d'une demi-journée, quoi. Il me reçoit même à sa table. Et puis, on se quitte comme ça. Et il me dit, voilà, ben, je ne peux encore pas vous dire où je vais ouvrir. Mais je vous préviens, ça ne sera pas en Provence. Il dit, parce qu'en Provence, les motards, ils mettent ni un casque, ni une combine de pluie, ni rien. Donc, nous, c'est tout ce qu'on vend. Donc, je vous mets à l'aise, ça ne sera pas en Provence. J'ai dit, mais moi, peu m'importe. C'est le job qui m'intéresse. Donc, que ce soit à Strasbourg, à Brest ou à Dunkerque, ça m'est égal. Et peu de temps après, il m'a dit, ça y est, on a loué des locaux sur Lille, donc ça sera à Lille. Et voilà, donc Lille, l'aventure commence en mars 83, comme ça, voilà.
Alors Lille, l'Ardèche, le soleil, ouais, les cigales.
La seule image que j'avais de Lille à l'époque, c'était une petite photo qui était dans mon dictionnaire Larousse, où on voyait la cité hospitalière qui était mise en exergue.
Ah oui, oui.
Et c'est tout ce qu'il y avait sur le dictionnaire Larousse sur Lille.
Le film Bienvenue chez les Ch'tis n'est pas encore sorti.
Ouais, mais c'est un peu ça, quoi.
Voilà. Et donc, tu vas arriver ici, donc sur la région, et tu vas ouvrir
petite boutique qui fait 50 mètres carrés, rue nationale.
Une petite boutique, hein, qui...
Ouais, 50 mètres carrés.
Rue nationale, ouais.
Voilà, et puis l'histoire s'enclenche assez vite, en fait. Apparemment, l'accessoire manquait un petit peu dans les magasins de moto traditionnels.
Alors, on revient un petit peu à l'époque, l'accessoire c'était chez les concessionnaires.
Ouais, c'était chez les concessionnaires.
Hein, ça n'existait pas.
Il y avait une forme de rareté, quoi, sur les vêtements essentiellement, les vêtements de cuir, etc. Puis c'était surtout aussi assez cher. Et Daffy avait une politique de prix avec des produits importés. Pour beaucoup du Pakistan et après de Corée. Donc voilà, ils se sont assez vite positionnés sur ce créneau économique là. Et puis l'histoire, ça a démarré petit à petit, quoi. Bon, moi après, je suis parti sous d'autres cieux.
Donc là, tu vas rester combien? 5 ans, hein?
Oui, je reste 5 ans à Lille, le temps de faire une petite fille.
Avec ce... Oui, en plus, oui.
Et puis...
entre parenthèses, voilà. Petite fille, ouais.
Et de repartir en Provence dans une autre activité, sans jamais quitter la moto à titre personnel, bien sûr. Et voilà, quoi.
Et donc cette activité, ça va te permettre de rencontrer plein de personnes ici dans la région. C'est pour ça que tu remontes régulièrement, dire bonjour aux gars du Nord.
Exactement. Donc depuis 1988 que j'ai quitté Lille, ben, je reviens régulièrement et je revois toujours les vieilles badernes, là, comme la Miche, qui lui aussi me rend visite en Ardèche parfois.
Parfois,
et
oui.
Donc voilà, quoi, c'est toujours un très bon moment quand je viens ici, où j'ai conservé finalement beaucoup d'amis, malgré le bref laps de temps où je suis resté.
Il dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu t'es baladé un peu? Qu'est-ce que tu penses de ces grandes surfaces d'accessoires?
Je continue.
Il faudrait se balader avec
un
caddie supermarché, hein, ouais. Presque.
Ouais, et oui, j'ai même été. J'ai revu le magasin Daffy Moto à Seclin et j'ai été surpris qu'il y avait même une rangée de caisses pour sortir.
Oui.
Voilà, quoi, je me suis dit, c'est vrai que...
Tu pouvais imaginer, toi, en 82, que... Ton petit bouclard allait devenir une espèce de grosse surface comme ça.
Parce que plusieurs milliers de mètres carrés, avec... un choix tellement immense qu'on ne peut même pas choisir. Tellement il y a d'articles.
Il y en a trop, mais effectivement, il y a trop de choses, on a du mal à faire son choix.
Et bon, maintenant, voilà, quoi, c'est peut-être une évolution de notre monde.
Voilà. Ouais, alors, après toi, il y a eu l'évolution, hein, c'est le magasin a déménagé.
Oui,
hein,
voilà, le magasin a déménagé plusieurs fois, face, rue nationale, où il a doublé ou triplé sa surface. Oui. Et ça, c'était mon successeur, c'était Benoît.
Voilà.
Et qui, lui, est resté beaucoup plus longtemps que moi, puisqu'il est resté 20 ans chez Daffy Moto. Et où il s'est fait remercier un peu sèchement d'ailleurs.
Sèchement, oui. Oui, parce que les contrats, vous avez les contrats un peu bien.
Ben, disons qu'à l'époque, à l'époque où j'étais recruté, compte tenu de la modicité du chiffre d'affaires, on avait un commissionnement relativement important pour avoir un salaire à peu près décent. Mais vu l'explosion des chiffres d'affaires, Benoît, il avait un salaire qui était supérieur à celui de son PDG.
Et ça va pas, ça.
Évidemment, il ne supportait plus.
C'est pas bon. D'accord. Et après, ça va partir à l'homme.
Voilà, après à l'homme, où la surface a encore multiplié par deux ou par trois. Voilà. Et puis après, à Ronchin, et puis voilà.
Voilà, et Ronchin, oui. Et après, Seclin, voilà. Bah écoute, Patrick, on te remercie. Tu restes avec nous, là? C'est demain que tu redescends en Ardèche?
Ah oui, voilà, demain matin, je quitte le Nord et... Très bien. Pour d'autres activités.
Qu'est-ce qu'il y a de bien en Ardèche on devait donner des idées de balade au moteur du Nord?
En Ardèche, c'est aussi bien.
Le pont d'Arc, le vallon de pont d'Arc?
Ouais, voilà, pour faire de la moto sur la route que faire du tout-terrain, parce qu'on a encore de grands espaces où on peut se promener avec une moto tout-terrain. Les chemins sont illimités, les espaces superbes, le climat clément. et puis après d'autres activités, la rivière,
Ardèche du Nord,
la spéléologie,
Ardèche du Sud,
voilà, Ardèche des montagnes, Ardèche des plaines, Ardèche de la vallée,
bon, il y a quoi faire, quoi.
Voilà, puis alors sans oublier la gastronomie, le vin, le fromage de chèvre, le saucisson, voilà.
Bon bah écoute, tu nous as mis la bouche là, voilà, très bien, merci Patrick. Et puis bah écoute, on essaiera d'aller faire un tour là-bas en Ardèche, hein. Ce qui s'y fait.
Voilà, on m'a suggéré de préparer l'organisation d'une hivernale en Ardèche.
Ah oui, hivernale, ça serait bien ça. Et je pense qu'il va y avoir du monde, beaucoup de ch'tis, voilà. Merci Patrick. Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice. Till the angels come and ask me to fly. Gonna be 18 till I die.
Yeah.
aujourd'hui sur cette route 66. Enfin, il faut s'imaginer, on est au guidon d'une grosse, grosse Harley. C'est ce que vous avez fait, DJ Richard.
Oui, c'est ça, ouais. Donc, c'était au mois de juillet. On est arrivé à San Francisco et puis on a tout de suite loué les motos. Là. On les avait d'ailleurs réservées depuis septembre. Et puis, donc, ce sont des Electra Glide.
D'accord. Mais quelle idée de vouloir aller rouler sur cette route ? Parce que quand on regarde l'histoire et même sur les forums, il n'y a plus rien sur cette route. Hein. D'ailleurs, même au début, à partir de Chicago, là, sur 1000 km, c'est apparemment très triste. Il n'y a rien à voir.
On s'est renseigné d'abord, savoir ce qu'on allait faire sur là-bas aux États-Unis. Et on a appris que la route 66, toute la première partie était pas terrible. C'est l'usine, les routes ont été supprimées, les autoroutes sont passées au-dessus de la route 66. Donc on a décidé de faire le Grand Ouest américain avec les grands parcs et redescendre par la partie qui a été remise un petit peu au goût du jour et puis remise avec un peu de vie par l'intermédiaire d'un fameux ancien barbier Delgado qui a essayé de remettre en place quelques petits commerces, etc. sur quelques petites villes sur les 800 derniers kilomètres. On voit beaucoup de secteurs très très tristes avec des panneaux maison saisie.
Alors est-ce que c'est l'Amérique profonde encore, la route 66, où on retrouve des gens qui sont en rancune chair sur le
Oui et non, parce que tu retrouves
devant leur maison avec le drapeau américain un peu, non ?
Alors des drapeaux américains,
il y en a sur la route. Drapeau
américain, il y en a.
C'est planté,
tu es quand même sur une route encore assez touristique où les motards viennent et puis ils nous attendent. Donc il y a les commerces, il y a le petit bistrot, il y a les petits restos, etc. avec une ambiance super sympathique.
Alors les Américains l'appellent, au début ils l'appelaient la Mother Road, la mère de l'Amérique. Ouais. Ça. Et il a fallu 12 ans pour la faire, vous imaginez un peu, à l'époque.
Ouais, 12 ans, le pas si fameux que ça. Hein. il faut avoir de bonnes suspensions.
Vous auriez pu faire la National 7 finalement.
On l'a fait aussi.
Ouais,
on l'a fait
aussi. C'est un peu moins long, mais on se dit quand même à l'origine, quand il n'y avait pas cette fameuse autoroute là, qui passait côté de Lyon, tout ça. Et si c'était faire ça aussi.
On a fait un entraînement l'année passée au mois de juin. Sur la National 7.
D'accord. Ah, vous avez fait l'entraînement, puis après vous êtes parti.
On est parti d'une semaine d'échauffement et ensuite on est parti.
Patricia.
Non, j'étais sensible à ce que disait Didier sur effectivement le côté tourisme tour, et tout le charme que ça peut avoir, mais aussi l'importance de la récession aux États-Unis parce que à côté de ça, il y a cette réalité comme tu disais, de maisons à vendre, de choses qui se détériorent énormément par manque d'entretien parce que il y a une vraie crise économique.
T'as de belles vitrines et après derrière t'as vraiment des maisons qui sont très très tristes.
Voilà.
part directement sur cette fameuse et mythique route 66. On a pris les commandes. Et là, on part. Alors,
tu sors,
vous avez fait 500 mètres.
Tu dis, ça y est, on y est. Au premier feu rouge, tout le monde se regarde.
Dites-nous un petit peu.
Alors, déjà, faut prendre des.
Vous avez des sensations, vous. Voilà, hein.
Déjà, faut prendre des traglingues en main. Déjà.
Oui, donc c'est, vous avez pris la grosse, hein. Voilà. Pas du sportseur, hein, du 1800.
Voilà, ouais, du gros.
Du 450 kilos.
Oui, voilà.
Alors, on va parler en kilos.
Une enclume.
Donc, vous étiez
4,
vous étiez 4 sur cette partie, hein.
Voilà, ouais.
Donc, premier feu rouge, tu t'arrêtes, tu te regardes dans les yeux, tu dis ça y est, on est sur les motos, c'est formidable.
Voilà, alors déjà les feux, faut s'habituer, hein, parce que les feux, le feu il est pas de côté, il est de l'autre côté.
Voilà, hein. Ouais,
donc faut pas s'arrêter en plein milieu du carrefour.
Exactement. Ouais. Et là tu dis, on fait attention à tout ça. T'avances un peu et ensuite tu rentres dans San Francisco et là tu tapes les.
Alors San Francisco, grosse ville,
oui. Les super montées.
Oui, alors.
Et les démarrages en côte.
Alors
avec
ça fait quoi
450
C'est des trucs qu'on voit dans les films, ça. Mais une fois qu'on y est, alors on ressent quoi?
Eh ben, tu ressens ce que tu ressentirais si t'avais la guitare de Jimi Hendrix dans les mains et tu
ça.
Dis
voilà, ça y est, voilà, j'y suis,
c'est
là,
ça. Voilà, c'est
d'accord.
Ça,
ouais.
Non, non, c'est un régal. On a vu ça dans tel film, on a vu.
Oui, voilà, c'est ça. Les images.
C'est marquant. Puis t'attends ça depuis 3-4 ans et tu dis ça y est, t'es dessus.
Oui, parce que vous avez quand même économisé, hein, pour faire cette
on
petite
économisé,
balade.
On pouvait pas faire le chèque comme ça directement.
Ça représente un.
Ça fait un beau petit budget, surtout la location de la moto.
Ouais, plus location de la moto.
Ouais, ouais, ouais.
Effectivement, faire la route 66 en voiture, ça aurait été un peu moins fun.
Ouais, bah oui, attends, on roule quand même.
Vous
étiez
à 4 dans une voiture, mais on peut
aussi,
se partager le budget, tu vas me dire, mais bon.
Voilà, ouais.
Ouais, ouais, voilà, ouais, mais bon, non, c'était, il fallait la faire en Harley.
Je comprends très bien qu'il fallait. Tu voilà. Pouvais faire en Goldwyn aussi, si tu veux.
Oui, aussi, ouais, ouais, ça se loue aussi.
Mais on est fan de Harley. Ouais. Donc,
voilà.
Qu'est-ce que
mais
tu
voilà. Bon, vous...
San Francisco.
San Francisco, ouais.
San Francisco,
ouais.
Les grands parcs. Ouais. Donc, Yosemite. On est passé par Las Vegas, Bryce Canyon, Monument de Valley, le Grand Canyon. Et ensuite, on est redescendu sur la route 66 pour reprendre la meilleure partie de la route 66 pour revenir sur Los Angeles et remonter par la côte ouest pour repartir sur San Francisco.
Donc, on traverse forcément des petits villages qui sont un peu abandonnés, hein, parce qu'on l'a dit, cette route a été abandonnée en 1986, je crois, parce que bon, ils ont construit des grandes autoroutes. Puis forcément, maintenant, on prend plus cette route. Et en fait, il y a une association qui essaye de refaire revivre cette route.
Surtout sur c'est la ville de Seligman où on a une petite association là, qui a essayé de relancer la vie de cette route. Donc, passage obligé pour aller visiter, quoi, pour regarder. 4 ou 5 petites villes super sympathiques, décorées, les gens nous attendent. On arrive en moto.
Oui, parce que, une question, tu sais que une partie du film Easy Rider a été tournée sur cette route 66. Même une partie, je crois que le film a été tourné sur cette route. Mais ça finit mal pour l'un des motards, même pour les deux, je crois, ça finit mal.
Nous, ça s'est bien terminé.
Mais vous, ça s'est bien terminé. Non, mais ils sont accueillants quand même dans ces petits villages. Ils vous attendent pas avec le fusil à pompe.
Non, non, t'es pas dans Délivrance ni quoi que ce soit. Il y a pas de souci parce qu'on est passé à côté du Colorado. Mais ça a été.
Tu sais,
tout s'est bien passé.
Non, non, c'est pour ceux qui voudraient y aller l'année prochaine.
Alors, on est
avoir peur,
super bien accueilli. Tu vas dans n'importe quel petit resto, petit motel, les commerces.
Alors justement, c'est comment les petits restos? Ils sont comme d'époque avec les enseignes d'époque.
Il y a du typique et puis il y a du moderne aussi, quoi.
Ouais,
c'est clair. Mais bon, on visait aussi surtout le typique aussi. Ouais, c'est amusant aussi. C'est il faut.
Oui, bien sûr.
On n'est pas allé là-bas pour
éviter les McDo.
Oui, donc vous aviez prévu l'hôtel, tout ça, sur la route.
Ouais, tous les motels étaient réservés aussi. Ouais.
Les motels, ouais. Et donc les motels, c'est pareil, c'est un peu genre bague de café ou un truc comme ça, non?
Ouais, t'as le motel où tu tires ta chambre au sort et tu rentres dans ta chambre, alors t'as le thème. John Wayne, l'autre.
Ah, John Wayne, ouais.
C'est tous des thèmes comme ça. Bon, c'est assez folklorique, assez sympathique. Et ça te fait passer un bon moment, quoi. C'est excellent.
bah là, DJ, c'est de l'Harley. Hein,
c'est de l'Harley, j'ai entendu. C'est ambitieux.
On est cherché ça vite fait durant le morceau de musique, là, pour mettre juste après, là, hein, pour reprendre la parole. Bon, donc, on repart sur cette fameuse Route 66. Qu'est-ce qui vous a. Vous n'avez pas fait que ça, hein, en Amérique. Qu'est-ce qui vous a vraiment le plus intéressé, marqué?
Le plus marquant,
c'est. Ce qu'il y a de plus beau, finalement.
Monument de Vallée. T'es sur cette grande route tout droite avec Monument de Vallée au bout, là, et tu dis, ouais, t'es dans le film, t'es dans les westerns. C'est le côté impressionnant. C'est ouais, les cow-boys, les indiens, les westerns de notre époque, et c'est un décor magnifique. Ça, Antelope Canyon, des rochers d'exception avec des couleurs magnifiques, tu rentres dans une faille et tu découvres un décor. Un décor féerique, quoi. C'est,
d'accord.
Bon, c'est des choses marquantes.
Et pour revenir à cette route 66, si on veut la faire, parce que maintenant il reste que des tronçons, c'est coupé, ouais, hein, les endroits où on peut pas rouler. Quel côté il faut faire?
Le côté ouest.
L'ouest,
côté
parce
ouest.
Qu'apparemment côté est,
il y a rien, c'est l'usine.
C'est industriel.
C'est que des usines.
Quand on regarde, c'est un peu le parcours sur des forums.
Alors tu prends Flastav jusqu'à Victorville, et là t'as quelque chose de en état propre, accueillant, touristique, bien sympathique, avec des routes en bon état. Et là, tu es sur la moto et tu prends ton pied.
Du côté de Santa Fe, alors peut-être non.
Santa Fe, tu arrives à Santa Fe, c'est le panneau de fin de route 66. Tu arrives et tu dis, bon, le voyage est bientôt fait.
C'est amusé, cette route, hein, parce que j'avais des photos, ils ont conservé les panneaux des années 30.
Ouais,
carrément le.
T'as encore des vieilles carcasses de voitures, oui. les vieux camions de pompiers,
les pick-up, les V6, V8, V12.
Ça t'en croise à tous les coins de rue.
Ouais, hein, encore. Bon.
Des
Ford, sur la route 66.
Des Shelby, etc. Ouais. T'en vois à tous les coins de rue. C'est la Twingo des États-Unis.
Ah oui, ils ont beaucoup. C'est pas cher l'essence.
Voilà. L'essence, c'est beaucoup moins cher. Tu peux consommer.
Donc effectivement cette route c'est le musée, donc on est impressionné quand on regarde un petit peu tous les
tu rentres dans chaque commerce.
Je suppose qu'il y a encore des, quand vous rentrez dans un bar, il y a encore le disque au moins une pièce, et puis non.
Ouais les vieux jukebox.
Non, je suppose qu'il y a encore ça, non.
Tu vois encore ça dans un coin un petit peu poussiéreux.
Ouais.
Tout n'est pas dans cet état-là. Après, t'as des trucs, des petits restos qui sont modernes, mais qui essaient de retrouver l'ambiance des années 60, qui se donnent le genre, la tenue vestimentaire, etc. Et les musiques qui passent à l'intérieur, les menus. Tout est fait années 60, et bon, tu changes d'époque.
Tu manges des haricots, sympa. Tout ça.
Voilà.
Du Chili.
Du Chili.
Bah oui, pourquoi?
On n'ira pas plus loin.
Non, bah d'accord, on va arrêter, on va pas aller loin, parce que vous voyez, c'est un peu serré. Là. Bon, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de motards sur cette route, ou les Américains, ils la pratiquent, ou pas?
Non,
ou c'est simplement un truc. C'est simplement un truc pour les étrangers.
Non, on pensait voir énormément de motos, et on a été assez surpris de voir. Ouais, il n'y avait pas tant de motards que ça sur la route. Et on était souvent seul sur cette route, et avec les super gros camions américains de chaque côté, et les super gros pick-up énormes, mais pas tant de motos que ça. On s'attendait à en voir beaucoup plus.
Oui, c'est cher, hein, c'est parce que, enfin, pour nous Européens, c'est combien un voyage comme ça, Miguel?
Dans les 8 à 9 000 euros.
Ah, oui,
tu comptes simplement 2 700 euros de moto, de location.
Donc, tu pars pas en vacances pendant 5 ans et
voilà.
Tu peux payer petit voyage. T'as pas intérêt à te louper.
C'est pour deux aussi.
Ah oui, c'est pour deux,
par couple,
bien sûr.
Par couple, Non, tu te loupes pas. Une grève d'avion là, avec un pilote un petit peu trop exigeant.
Bon, d'accord, on va pas le faire.
Tu lui sors dessus là.
Voilà, donc on va conclure. Tu me diras un peu par expérience, c'est ce qu'il faut faire, pas faire, pour donner un peu des idées à des gens qui voudraient refaire aussi cette route 66.
Il n'y a pas de problème.
We'll be right back.
Richard Didier de revenir sur cette Tour 66, ça a inspiré pas mal d'auteurs, Christine.
Oui, au niveau de la littérature, on peut donc parler d'un livre de John Steinbeck, c'est Les raisins de la colère, donc qui a été aussi un film et qui met justement en avant toute la vie difficile des ouvriers et des fermiers de l'Ouest américain pendant la Grande Dépression, qui pour fuir la pauvreté vont s'exiler. Et un autre livre aussi très important, c'est le livre de Jacques Kerouac, Sur la route, On the Road. Et donc lui, il a permis à un mouvement de mettre en lumière l'Amérique populaire qui borde la route 66. Donc à lire ou à revoir au cinéma.
Vous saviez, non ?
Oui,
sur le bout des doigts.
On a tout lu.
Et attendez, ça inspire aussi des réalisateurs de films. Hein. Bon, je vais vous parler de Zirador qui a été tourné sur cette route. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, Thelma et Louise, un road movie qui finit très mal pour les deux là. Voilà. Et il y a eu d'autres, Black Café aussi. Donc c'est une route qui inspire et qui en fait bien servi de décor pour ce genre de film.
On est passé par Baguette.
Vous êtes passé par là, mais vous êtes fantastique. Ouais, c'était incroyable.
On est même rentré
dedans. Bon, alors maintenant, on va conclure un peu là pour cette histoire. Fort de votre expérience, que faut-il faire ou pas faire surtout là-bas sur cette route 66? Alors, on parlait de flotte là.
Ah, il faut avoir de la flotte. Une glacière.
Une glacière sur le porte-bagages.
Non, il faut une glacière souple.
C'est con, ça dénote sur une Harley.
Non, tu mets ça, tu caches ça dans la sacoche.
Ah, tu la caches.
Voilà, exactement. T'as de la glace dans tous les motels, donc tu as rempli de glace.
Ce qui fait quelle température, dites-nous.
L'été, 45 degrés.
45 degrés. Donc l'histoire, c'est vous êtes arrêté sur un chantier parce qu'il y avait des travaux et il y a un type qui vient vous voir. Là.
Le gars t'arrête en plein milieu sur l'autoroute, t'es arrêté au milieu de nulle part et puis il y a un gars orange devant toi qui dit stop.
Et il a soif, il veut de l'eau.
Il fait 45 degrés, t'es arrêté, les quatre motos sont arrêtées. Et dans la minute qui suit, il y a une camionnette qui vient et qui vient te proposer de l'eau.
Ah oui.
Si t'es pas équipé,
c'est pour vous.
Pour dire de.
Plus pour les motards, on va dire que dans les voitures sont équipées de climatisation. Donc
On roule comment
ça
là
va encore passer.
En cuir?
Non, tu peux pas.
Alors non,
c'est. Vous avez roulé comment?
C'est pas sérieux, mais tu roules en chaussures de toile, tu roules avec un pantalon de toile, et puis tu roules avec pratiquement en chemisette. T'as du mal à supporter. Ouais. Quand tu longes la vallée de la mort, t'as 45 degrés en température ambiante, t'as le moteur.
C'est incroyable, le moteur il va vous brûler les.
Le moteur, le chaleur qui remonte.
Les jambes.
Et t'as le vent de la vallée de la mort qui vient te brûler pratiquement la peau.
Par expérience, je sais que rouler en maillot, quand justement t'as du vent comme ça très chaud, ça te brûle aussi la peau, et je préfère rouler avec un
manche longue.
Manche longue.
Manche longue.
D'accord, manche longue, toujours. C'est le conseil à donner, tu vois.
Il vaut mieux.
Sinon, ça brûle la peau.
Et sinon, après, c'est la flotte. Et après, c'est le truc con, c'est avoir des billets de 1$. Tu te balades avec un billet de 10 ou 20 dollars, tu le rentres à chaque coup, tu dois rentrer ça dans une machine pour avoir quelque chose, enfin une boisson, ou prendre le métro, quelque chose comme ça, ils rentrent pas la monnaie. Donc la première fois, on s'est fait avoir de 20 dollars, et après on a fait de la monnaie.
Voilà. Et indispensable, comme dans la BD, la crème solaire.
Et la crème solaire.
Les Frenchies, on les reconnaissait à la piscine.
La BD, et apparemment, c'est du vécu.
C'est
des bonnes idées.
Le stick aux lèvres, etc.
Pour terminer, vous avez préparé le voyage avant, quand même. Je pense d'ici, en Europe, vous réservez.
Petite année avant, on a tout fait par Internet.
Bon, ce qui coûte le plus cher, c'est dans la location de la machine.
Location de la machine, les billets d'avion, et après derrière les hôtels, on peut imaginer que ça coûte super cher. T'as Las Vegas dans un superbe hôtel, le Luxor, c'est du marbre partout, enfin les piscines formidables, le casino en bas, et tu paies, je crois qu'on était à 30€ la nuit.
Ouais. En fait, les gros postes, c'est ça, c'est la location de la machine, l'avion. Une fois que t'es là-bas, tu manges à peu
après,
près.
Après, derrière, t'arrives à sortir. L'essence, 75 centimes le litre, c'est pas catastrophique. Quoi.
Ça me paraît incroyable, tu vois, les Harley, ça résiste à 45 degrés. Il n'y a pas de fuite d'huile, rien du tout.
C'est une bécane exceptionnelle.
Je suis étonné.
C'est une bécane exceptionnelle.
Vraiment, c'est bon. Si vous le dites.
Ça a tant de succès auprès des quinquagénaires qui ne s'y connaissent pas énormément en mécanique.
Je sais pas si vous avez peut-être prévu de repartir.
On aimerait bien repartir, mais on va économiser.
C'est déjà dans la tête.
Une fois que vous avez économisé, vous revenez nous raconter tome 2, votre histoire.
Exactement, on va devoir écrire un livre aussi.
Très bien, merci messieurs.
Ouais. Salut.
find. I'm the sole of your worn out boots and the muddy footprints that you left behind. Old man, can you see your sunrise? A new dawn with the same old blue eyes. And as your rain comes falling down, they're gonna hear my thunder for your lightning hits the ground. Can you hear me loud and clear? Hey, Papa, look at me now. Can't you see I'm on my way? Your heartbroken ways give me something to say now. Yeah, I'm gonna make you proud. Can't you see? Can't you see? Oh, I'm on my way.
Ça, c'est du rock and roll sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 12h30 et plus si affinité. On va retrouver notre explorateur à moto, Quentin.
Oui, bonjour.
Et tu vas nous parler des sœurs Van Breen.
C'est ça. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir une centaine d'années en arrière, donc en 1916 plus précisément, en découvrant les sœurs Van Breen, Augusta et Adeline. Alors, on est à une époque où il n'y a pas de droit de vote et pas encore vraiment de communauté motarde établie. Et je vous propose par la même occasion de changer d'air, puisque leur histoire se déroule aux États-Unis, à une époque donc patriarcale et un peu xénophobe. Donc, pour la petite anecdote, les sœurs Van Breen sont les descendantes du 8e président des États-Unis.
Oh ouais. C'était qui ?
Martin Van Breen, donc président de 1837 à 1841.
Quelle culture.
Bravo, je pensais que t'allais être une colle.
Et alors, comme leur nom de famille le laisse bien sous-entendre, la famille Van Breen est originaire de Pays-Bas. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont de si spécial, ces sœurs ? C'est que, donc, Augusta est née en 1884 et Adeline en 89. Elles ont respectivement 32 et 27 ans. Et pendant la Première Guerre mondiale, elles décident de traverser l'Amérique d'est en ouest à moto. Donc elles ont commencé leur périple depuis New York en faisant l'acquisition de deux Indian Power Plus. Alors qu'est-ce qu'une Indian Power Plus ? C'est un bicylindre en V de 1000 cm3 à soupape latérale. On est sur une machine vraiment archaïque, hein, puisqu'on est avec un réservoir entre tubes. On a aussi un levier de vitesse qui ressemble plus à un levier d'aiguillage ferroviaire. Il y a aussi deux poignées tournantes, donc l'un pour l'accélérateur et l'autre pour l'avance à l'allumage. Et alors, pour les mots techniques, on parle d'un cadre avec bras au sillon à ressort à lame et d'une fourche à tirant à ressort à lame et d'un éclairage à acétylène. Donc, une brève description pour vous montrer un peu la complexité de la machine. Et je trouve ça fabuleux car ce sont deux jeunes femmes à l'aspect plutôt frêle et elles manient quand même des machines pesant plus de 200 kilos. Et donc, elles se sont élancées de New York pour rejoindre San Francisco. En traversant Pike Peaks. Alors Pike Peaks, qu'est-ce que c'est ? C'est une montagne au milieu des États-Unis et qu'il culmine à près de 4300 mètres d'altitude. À savoir...
Ils font des courses en soi.
Oui, ouais. Et je crois que les courses elles se sont faites depuis toujours, ouais, sur un chemin en terre. Parce que ça, ça a été goudronné depuis pas longtemps, Pipix.
Il s'arrête en haut.
Ouais. Ouais, bah
c'est. Ils jamais les motos, hein, ils ont interdit les
ouais,
motos.
Ils ont interdit les motos. Ouais. Ah, parce qu'il y a une Ducati qui s'appelle comme ça justement, qui avait gagné.
Ce qui est intéressant à savoir, c'est que du coup, la route passe vraiment par le point culminant en fait. La route est à 4300 mètres d'altitude. Et alors malgré cela, elles ont réussi à passer Pipix avec leur moto de 1916. Elles sont ainsi devenues les premières personnes à avoir traversé Pipix avec des engins motorisés. Et après avoir rejoint San Francisco, elle ne s'arrête pas là et décide de longer un peu la côte en rejoignant Los Angeles et Tijuana. Puis une fois qu'elles ont fini leur périple, eh ben il faut revenir à New York. Et elles sont revenues en moto, donc elles ont parcouru 8800 km en moins de 2 mois.
Tijuana, ça veut dire qu'elles sont passées la frontière mexicaine, elles sont allées au Mexique
C'est ça, ouais. Okay. Ouais. Et donc c'est plutôt, on peut dire ça plutôt rapide, enfin elles ont fait une moyenne de 150 km par jour. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas beaucoup vraiment de témoignages de ce qu'elles ont fait. En fait, la presse a beaucoup parlé de la robustesse de leur machine et ne laissait pas vraiment la place aux femmes en fait à cette époque-là.
Alors, ouais, surtout que les routes, elles n'étaient pas goudronnées. Quoi.
Non, mais c'est vraiment une, comment dire, un exploit sportif ouais, là, de faire ça.
C'est
hein.
une mais performance. Ouais.
Ce qu'il faut imaginer, à l'époque, la mortalité était au point qu'elles se sont fait arrêter parce qu'elles portaient des vêtements d'hommes. Ouais, qui n'était pas autorisé.
Alors on a quelques photos et franchement il faut les voir, vous tapez les sœurs Van Buren sur internet et vraiment elles ont, j'ai envie de dire, elles ont de la gueule, hein, elles ont un look vraiment très motard hein, puisqu'elles portaient des bottes en cuir à lacets, une culotte d'équitation en cuir, un long manteau qui lui aussi est en cuir avec un casque avec cette petite casquette et des lunettes d'aviateur. Mais c'est vrai que c'était perçu à l'époque comme du travestissement. Parce qu'elles étaient habillées en fait comme des hommes. Et
est-ce que le fait qu'elles étaient descendantes d'un ancien président, ça les a aidées ou pas justement à ce moment-là ou...
Non, pas du tout, parce qu'en fait c'était, comment dire, elles sont descendantes, mais c'est, tu vois, t'as vraiment un gros fossé entre leur descendant président et.
Plus personne se souvenait qu'il y avait eu un président à ce moment-là d'ailleurs à l'époque.
Ouais, je pense aussi.
Bon, et donc la presse a parlé de leur moto, tu dis, alors que leur moto, elles l'ont financée elles-mêmes finalement. C'était pas un périple publicitaire.
En fait, il y a quand même une revendication derrière ce voyage. Parce que du coup, en 1916, les États-Unis se préparent dans leur entrée dans la Première Guerre mondiale. Et donc, les sœurs Van Buren étaient très actives en fait, dans le Preparedness Movement. C'est une campagne menée en fait, par un chef d'état-major américain et l'ancien président Theodore Roosevelt. C'était une campagne en fait, pour renforcer l'armée américaine après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et donc, leur idée, en fait, à travers ce voyage à moto, c'était de prouver que les femmes pouvaient rejoindre l'armée en tant qu'estafette militaire, c'est-à-dire de transférer des messages et des courriers à moto. Alors, les femmes estafettes, c'est quelque chose qu'on a retrouvé beaucoup plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre.
C'est marrant comme expression, femme estafette. Hein.
Estafette. Oui. Donc.
Elles n'avaient aucun sponsor.
Ah non, elles l'ont fait d'eux-mêmes. Ah ouais. Comme je disais, en fait, alors la presse a surtout vanté aussi leur voyage comme des vacances, en fait. Et c'est ça qui est un peu décevant, parce qu'elles ont eu quand même des conditions météorologiques dantesques. Il y a des passages, clairement, on ne pouvait pas les passer sur la moto. Il fallait pousser la moto, il fallait réparer les... Enfin, elles sont tombées plusieurs fois en panne, elles ont chuté plusieurs fois. Et elles étaient juste toutes les deux. Elles ont fait 8800 km comme ça, à deux.
Et d'autant, comme tu dis, juste à deux comme ça, donc j'imagine qu'elles étaient férues mécaniciennes, alors du coup.
Oui. Alors, ce qui s'est passé après leur voyage, c'est qu'elles ont essayé de rejoindre l'armée, donc justement pour être estafette hein, sur les motos, mais leur candidature a été refusée. Et ce qui est vraiment décevant pour cette époque, c'est qu'en fait, cette époque ne laissait pas vraiment la place aux femmes. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas beaucoup, d'écrits sur ces deux sœurs.
À cette époque-là. Et du coup, est-ce qu'elles ont continué à se battre pour les femmes et pour les estafettes hein, c'est Renault en France qui s'est battu pour les estafettes. Et est-ce qu'elles ont continué à le faire aux États-Unis?
Pas vraiment. En fait, il y a une des sœurs qui est devenue professeure. Et l'autre, en fait, est devenue pilote d'avion et a rejoint En fait, j'ai pas poussé jusque-là. Parce que je voulais pas non plus trop faire un reportage trop long, mais non, ce que j'ai vu, c'est qu'elle était, elle a fait partie d'un grand club, par contre, d'aviation, c'est les 66, je crois, le nom du club. Après, pour conclure, alors j'avais vanté à Kikinkout et Toupol les sœurs Van Buren comme les pionnières de l'exploration à moto.
Mais tu nous as menti.
Voilà. Parce qu'après avoir terminé le reportage, j'ai fait, ah ben mince, un an auparavant, en fait, il y a deux femmes, une mère et sa fille de 16 ans, qui ont justement, qui ont fait pas vraiment le même trajet, mais qui sont parties de New York pour San Francisco, avec un sidecar Harley Davidson, donc en 1915. Et donc c'est. Elle s'appelait Avi et Effie Hotchkiss, mais bon, l'heure n'est plus.
Vu leur nom, je pense que tu as préféré prendre Vendu, c'est plus facile à prononcer.
C'est plus facile à prononcer, oui.
Je ne sais pas si les archives des émissions remontent jusque-là, mais oui, on en avait parlé il y a une bonne dizaine d'années, je pense.
Il ouais, faudra que tu viennes nous parler de la mère et de la fille la prochaine fois.
Oui, mais par contre, c'est vrai que pour trouver des infos ouais. dessus, je pense que ça va être difficile, mais quand j'ai vu les photos, en fait, elles ont fait deux photos, une photo au départ et une photo à l'arrivée. Et je pense qu'elles n'ont pas été embêtées durant leur périple par rapport à leur tenue, parce que là, elles étaient vraiment habillées en robe, enfin tenue classique d'époque.
Il y a eu des articles, puisque le petit truc qu'on avait fait à l'époque pour parler d'elles s'appuyait sur des écrits qu'on trouvait facilement à l'époque sur Internet. Maintenant, il faut pouvoir rechercher.
Mais après, je trouve ça super aussi de s'intéresser à ces anciens voyages à moto, parce que moi, ça me donne des idées en fait pour voyager aujourd'hui, tu vois, et de faire un peu la comparaison.
Pour préparer ton voyage en sidecar chez le Père Noël, c'est ça?
Oui, il y a ça, mais même pour me dire bah, peut-être qu'un jour, je pourrais faire resuivre leurs traces, tu vois. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand tu as des témoignages, des fois, on te dit, tel endroit, c'était comme ça, et c'est de voir aussi comment c'est devenu aujourd'hui. Tu vois, tu peux faire une comparaison avant-après. Ça, c'est quelque chose que j'adore, en fait.
Et ben, on compte sur toi pour le faire et venir nous le raconter ici, du coup.
Ça marche. Si je tombe pas en panne, si j'arrive à quitter le... Si ma moto traverse le nord, tu vois, ça devrait marcher.
Une hiche, ça tombe pas en panne. Ça non. S'arrête.
Comment tu dis? D'accord. Ok. C'est bon, Quentin?
Oui, c'est bon pour moi.
On va passer un petit morceau de musique? Allez, rock and roll. We got demos to show.
Daniel, bonjour.
Bonjour la Miche.
Alors là, on te présente comme la voix de la custom culture. Eh oui, tu es le backers de notre métropole lilloise.
Oh, ça, j'espère que ça dépasse un petit peu les frontières, puisque je suis présent beaucoup en Angleterre, partout en France, partout où il se passe quelque chose dans le monde de la custom culture.
Très bien. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet, c'est les vêtements emblématiques du biker.
Ouais, tout à fait, parce que le biker, bien sûr, est identifié par sa moto, ça c'est clair, et la manière dont il travaille, mais surtout, depuis, je dirais, la nuit des temps, ce qui nous a motivés aussi, c'est l'appropriation de certaines images véhiculées par des vêtements emblématiques, ce qu'on appelle vulgairement le perfecto, que tout le monde connaît. D'ailleurs, il y en a un en face de nous, là, sur le dossier. Et surtout, on imagine qu'il y a celui-là. Mais non, en réalité, le perfecto, pour la culture de tout le monde, c'était par Irwin Schott, suite à la création de son blouson, parce qu'il fumait des cigares cubains, le perfecto. Donc en 1936, si je ne m'abuse, quand il a commencé à travailler pour les pilotes, les jeunes pilotes qui allaient intervenir sur le front en 1944, il a sorti un vêtement spécifique qui était le shot, donc le perfecto, parce que Irwin fumait des cigares de Cuba, le perfecto. Donc ça, c'est l'origine du blouson. Mais avant ça, nous, Européens, on était précurseurs, parce qu'en 1892, les frères Lewis avaient sorti les premiers blousons qui ont servi aux jeunes pilotes qui sont intervenus dans la guerre, donc en 1914, puisque à l'origine, le père Lewis avait sorti des blousons spécifiques pour nos pilotes sur leur SPAD et autres CE5 et compagnie qui sont intervenus donc sur toutes les batailles du nord de la France en particulier. Alors, ça c'est véritablement ce qui est, je dirais, l'ADN du biker, parce que c'est identifié, identifiable, et ça à travers le monde. C'est une des rares, c'est un des rares signes, mais presque universel, c'est-à-dire que quel que soit le monde, quelle que soit la langue, tout le monde sait. On t'identifie à ça. Alors, tous ces vêtements d'après-guerre ont été rattrapés par les gens de la mode, puisque les grands couturiers, que ce soit McQueen, chez Dior et compagnie, ont utilisé ces vêtements pour les mettre à la sauce couture. Et maintenant, ça fait partie véritablement d'un produit emblématique qu'on se doit d'avoir dans sa garde-robe.
Et quelle est la particularité de ce blouson ?
Alors, il y a plein. D'abord, à l'origine, il faut quand même savoir que dans les avions de combat, puisque à l'origine, ce sont quand même, que ce soit Lewis ou Schott, c'était quand même des vêtements destinés aux jeunes combattants, enfin, surtout aux pilotes, en 14 et en 44. Et Lewis voulait quelque chose de chaud, d'extrêmement résistant et confortable, entre guillemets, autant que ça puisse l'être en 1914. Schott avait à peu près la même chose, mais un peu plus tard. Schott est intervenu non pas dans la guerre 14-18, mais à partir de 1944, quand les Américains ont commencé à débarquer, je dirais, en Europe. Alors la grande particularité, c'est que Lewis travaille sur du cuir, et avec, encore une fois, une qualité mais extrême, puisque c'était des blousons quasiment garantis à vie. Hein, donc ça, c'est véritablement le top du top. Schott avait une autre dimension, une autre optique, c'est que lui voulait que tous les pilotes puissent être repérés facilement en mer avec des couleurs distinctives. C'est pour ça qu'on a vu les fly jackets avec l'intérieur orange fluo. Ce qui voulait dire, tout au moins, c'est qu'en cas de naufrage ou en cas d'amérissage, à 10 ou 15 km, le pilote était repéré. Et ça a été aussi utilisé sur tous les bateaux. Parce que Schott voulait que tous les membres engagés puissent être terriblement visibles. Mais ça a été beaucoup plus loin, parce que quand on regarde un tout petit peu l'histoire, on s'est rendu compte aussi que la chasse causait beaucoup de problèmes. Et Schott a sorti, dans les années 50, un blouson assez étonnant, c'est-à-dire devant un blouson normal, et dans le dos, il y avait une teinte très forte, orange ou blanche, de manière
à repérer les chasseurs.
Voilà, qu'ils évitent de se tirer dessus. Oui. Quoique des fois, ça peut être bien. Mais là, pour le coup, c'était quand même une invention. Et ça existe toujours. Ça existe toujours. D'ailleurs, quand on se balade dans les champs, pour les gens comme moi qui courent aussi un tout petit peu, beaucoup maintenant de chasseurs ont des espèces de trucs rouges fluo, encore une fois, pour qu'on les repère. Ou peut-être que pour les lapins et autres volatiles puissent les identifier de loin.
Donc les backers vont s'approprier
créer ce vêtement, en fait, après la guerre 40-45, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Alors, au lendemain de la guerre, les pilotes de la RAF ont utilisé donc les blousons et se sont quelque part réunis et se... comment dire, ont continué leur mode de vie, non plus dans des avions de chasse, parce que bah, la guerre était finie, heureusement, mais se sont dirigés naturellement sur la moto. Et que ce soit nos amis anglais, que nos amis américains. Donc on a vu émerger de plus en plus d'anciens militaires, s'approprier ce vêtement qui était quelque part leur seconde peau. On les a vus donc en Angleterre, tout ce qui était Triumph, Norton, Triton et compagnie. Et aux États-Unis, sur les machines américaines, que ce soit Harley, Indian, Crocker, Excelsior et compagnie.
Il y a le cinéma aussi qui a fait beaucoup pour ce type de vêtements.
Oui, effectivement. Donc là, tu parles de Brando, par exemple. Ouais. Le Brando, mais Coburn, par exemple, de vêtements. Bien que Brando ne roulait pas sur une harnais, mais sur une moto anglaise, une BSA. Hein. Donc, ces gens-là, effectivement, ont été, les porte-étendards. James Dean, par exemple, dans La Fureur de Vivre, a un perfecto. Alors que Brandon, ce n'est pas un perf, mais c'est un Lewis Leather. Donc, ces gens-là aussi ont mis en exergue ce vêtement, encore une fois, emblématique, parce que ces grandes figures du cinéma, à l'époque, La Chevauchée Sauvage, Black Leather, etc., il y a eu plein de films, White One, par exemple. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est que le cinéma aussi a été aussi un amplificateur, parce qu'il a vulgarisé ce vêtement, encore une fois, qui était réservé à un univers très particulier, encore une fois, de combattants, et aux yeux du monde entier, on a vu les grandes stars américaines, grandes stars internationales, porter ce vêtement en étendard.
Yes, sir. you best.
Toujours avec Daniel Torel, on parle de ces vêtements emblématiques du Bikers, mais ce vêtement a été aussi approprié par les musiciens.
Alors, ça a été effectivement tous les musiciens un peu borderline, un peu rebelles. Et à l'époque, les deux figures emblématiques, alors je prends des opposés géographiques, c'était Elvis et Johnny, qui étaient aussi les grands porte-étendards du Perfecto, et qui ont aussi... quelque part à poser un petit peu leur image de blouson noir. De blouson noir, comme dirait notre ami.
C'est là que ça vient, le blouson noir, là, c'est du perfect.
Et absolument, le perfecto, c'était, encore une fois, je dirais, c'était l'étendard des blousons noirs. Ce qu'il y avait à l'époque, quand les gens fréquentaient le golf Drouot, c'était des gens qui venaient renverser un petit peu le bal du samedi ou du dimanche après-midi.
Et qui faisaient peur.
Et qui faisaient peur parce que, encore une fois, qu'est-ce que c'est que ces gens avec leur jean, avec l'ourlet, et puis ce blouson en cuir noir qui était le perfecto. Donc, géographiquement parlant, Elvis et Johnny ont porté, je dirais, de manière beaucoup plus... Enfin, ont vulgarisé ce vêtement qui était déjà connu par les gens qui fréquentaient le cinéma, qui avaient une certaine culture. Mais les hippies s'en sont aussi emparés. Il y a aussi le mouvement punk qui s'est en emparé aussi. Des gens comme Kurt Cobain, par exemple, qui avait toujours un perf. Mais, ce symbole... Il faut quand même comprendre que... Ce symbole un petit peu de rebelle, c'est aussi une forme de liberté. Liberté par rapport au code de la société actuelle. Encore une fois, une société un petit peu contrainte, après-guerre, besogneuse, avec beaucoup de difficultés quand même. Et que globalement, ce qui se passait pour le jeune, c'était pas, sans jeu de mots, rock'n'roll. Et
oui, alors il y a le rock'n'roll qui arrivait puis en Europe aussi. Et bientôt, on allait avoir 1969-70, hein, qui allait libérer la jeunesse.
Voilà, et encore une fois, donc dans les années 68-70 et après, le perf était devenu, encore une fois, mais alors non pas pour les bikers, etc., mais était devenu le vêtement de la rebellitude, si on peut dire ça comme ça. Et on a vu des gens comme, par exemple, des Nirvana, enfin Kurt Cobain, par exemple, avoir son perf. Ziggy avait son perf. Enfin, énormément. Enfin, quand on regarde Arnold Schwarzenegger, pardon, j'espère ne pas avoir écorché son nom, était aussi porteur dans Terminator de son perfecto. Mad Max.
Ah oui.
Tous les Mad Max, ce sont des perfs. Donc, un peu à la fois, avec l'histoire du temps, ce vêtement qui était encore une fois un vêtement de guerre à l'origine est devenu un vêtement très, très hype, très tendance, puisque toutes les générations, que ce soit musiciens, que ce soit acteurs, que ce soit gens de la mode, les gens de la télé, je me souviens aussi d'une émission, un journal télévisé, je dirais un petit peu mythique pour les plus anciens, Mourouzi, qui venait aussi de temps en temps présenter son journal TF1.
Je crois qu'on a vu Coluche aussi avec un perfecto.
Coluche, son perfecto rose.
Oui.
Non, mais voilà.
Oui, parlons des couleurs, tiens. Forcément, il était toujours noir, mais non, à part celui de Coluche.
Oui, effectivement, c'est bien que tu introduises le sujet de la couleur. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que si on repart des blousons noirs, bon, bien évidemment, ils étaient noirs. Mais quand on regarde un petit peu l'évolution, surtout à partir des années 80, avec l'avènement des gens comme Coluche, qui étaient quand même un petit peu... un petit peu gratte-cul, on va dire ça comme ça, qui se sont affichés avec des perfs. Donc, encore une fois, le vêtement le plus rebelle qui soit, mais encore plus rebelle que rebelle, parce que, symbole de la virilité des combattants, etc., lui mettait un perfecto rose. Donc, effectivement...
Là, on est en décalage.
Complètement. Mais c'est cette liberté, encore une fois, de... La custom culture, c'est quoi ? C'est de pouvoir... associer ou transformer sa moto à son image, mais aussi ses vêtements. Là, maintenant, depuis les années 2000, on a découvert la customisation des vêtements. Mais il faut arrêter, ça fait la nuit des temps qu'on fait ça. Et effectivement, quelque part, Coluche et un certain nombre de gens du showbiz se sont appropriés ces vêtements, enfin surtout ceux qui étaient encore, un tout petit peu en dehors des lignes du pouvoir de l'époque, se sont appropriés des vêtements rebelles avec des codes de couleurs mais complètement disruptifs. Donc on a vu du rouge, on a vu du rose, on a vu du bleu ciel, on a vu des paillettes, enfin on a vu de tout. Et c'est ce qui prouve un produit bien né avec une véritable histoire ne peut pas mourir.
Il se modifie, il change, mais ne meurt pas.
Voilà, c'est ça. Il garde ses gènes, mais les jeunes générations les adoptent en fonction de leur mode de vie, de leur sensibilité et de leur image, de l'image qu'ils veulent renvoyer. Mais dans tous les cas, c'est aussi un gros pied de nez, un petit peu à la culture établie, avec les dogmes qui sont verticales et qui voudraient que... Voilà, c'est ce côté un peu libertaire, quelque part, non conformiste. Alors... Le problème, c'est que les success stories, effectivement, sont copiées. Il y a une célèbre boisson américaine qui était importée par le NoGI aussi à l'époque, qui a été copiée par des Bretons, par des Corses, par des Alsaciens, etc., etc., etc. Alors, effectivement, oui, il y a énormément de copies de très, très mauvaise qualité. C'est vrai, parce que je me souviens d'un proverbe africain qui dit qu'un lion qui imite un lion n'est qu'un singe. Et... Effectivement, il y a des copies, mais de très mauvaise qualité, très mauvaise coupe. Enfin, tout est tout faux. Et le faux ne fera jamais du vrai. Donc ça, il y a pas.
À quoi on reconnaît un vrai
Un vrai, en général,
un vrai perfect.
C'est sa coupe, la qualité des peaux utilisées, la manière dont les cuirs ont été tannés, puisque à l'origine c'était du cheval au poulain. Après, on a eu de la vachette, on a eu de la chèvre, à certains moments il y a eu du kangourou. Donc on voit la coupe, la qualité des cuirs. Utiliser les fermetures éclairs, les pressions, et en plus, quelque part, un perf entretenu, c'est pour toute la vie. Celui-là, là, le mien, qui est un américain, fait à la main entièrement, donc à l'intérieur, c'est pas une copie. Celui-là, je l'ai depuis 1975, quand j'étais aux États-Unis. Tu peux regarder, il est quasiment à l'état neuf. Et pourtant, des milliers de kilomètres, ou millions maintenant, il en a vu. Il en a vu de toutes les sortes, des consents, des trucs sous la flotte, dans la boue, des fois des bastons, n'ayons pas peur des mots. Il a toujours résisté. Donc, la qualité, on la voit, parce que ça fait un peu plus de 54 ans, quand même, que je l'ai sur le dos, et tu l'as devant toi. Et tu peux regarder l'intérieur, il y a daté et tout. Donc, cette qualité-là, elle ne ment pas. C'est comme tous les bons produits, comme les bons vins, comme les vrais produits, bien entretenus ne meurent pas. Et c'est une assurance vie. C'est-à-dire
l'assurance vie. Quand tu le mets, tu te sens en sécurité.
Ouais, tout à fait.
Quand tu le portes.
Voilà, on se sent bien.
Très bien. On va, pour terminer, sur ce les vêtements emblématiques, actuellement, combien ça coûte? Combien on doit mettre sur la table pour avoir un.
Alors.
Imperfect.
Alors, tu connais ma sensibilité sur le juste prix des choses. Chez Perfecto, ou que ce soit Schott, pardon, ou que ce soit Louis, ou des choses comme ça, enfin, surtout ces deux grands-là, tu as deux grandes gammes. Tu as une gamme, ce que j'appelle d'accès. Chez Schott, par exemple, il faut compter entre 500 et 700 euros. Par contre, après, tu as ce qu'on appelle les premiums dans ces marques-là, donc les marques faites à la main, comme le perf que celui-là fait aux États-Unis, à la main, entièrement. Ou chez Lewis, il faut compter entre 1200 et 2500 euros.
Ah oui, quand même.
Ouais, ouais, ouais. Mais, encore une fois, là, celui-là a plus de 50 ans. Tu l'as là, devant toi. À l'époque, je n'ai pas pris
celui-là. Ouais,
Non, rassure-toi. À l'époque, j'ai dû payer, je crois, quelque chose comme 85 $, un truc comme ça. Mais... quand c'est vraiment de beaux objets, enfin c'est mon tableau quelque part, c'est mon Picasso, c'est une œuvre d'art et c'est comme ça qu'on les porte.
Said that she's too young. gonna do? We're no more hot sun breaking rocks. She got me on sunny day hop. She got me on sunny day hop. She got me on sunny day hop. She got me on sunny day hop.
Toujours avec Daniel Torel, nous sommes en 2020, le futur du style rocker.
Alors, bonne question. Depuis 1914, allez, on va simplifier, ce style n'a cessé d'évoluer. Alors, on est passé des... On va raccourcir de Marlon Brando au blues noir en France, donc des États-Unis à la France. On est passé du monde ska au punk, du punk à l'afterpunk, etc., pour arriver à Johnny Elvis et à nos jours. Et le style rocker est quelque part immortel. Pourquoi ? Parce que tous les grands couturiers se sont appropriés cette légende quelque part. Et on a des collègues à nous, comme Phil Mann, Philippe Manœuvre, il y a des tas de gens qui sont porte-étendards. Et tous les grands mannequins qu'on connaît, des gens comme Kate Moss, Pete Doherty, j'en passe et des meilleurs, ont porte le style rocker perfecto. Et c'est d'autant plus vrai qu'à nos jours, ce qui est rafraîchissant quand on voit arriver des jeunes créateurs, on va dire ça comme ça, issus du milieu motard ou biker pour ce qui me concerne, qui ont la moelle de continuer à préserver cette identité, qui est une identité très très forte. Honnêtement, ça mériterait une analyse sociologique de tout ça, parce que ça va loin, ça prend ses racines dans des évolutions sociologiques très très fortes, avec des codes, des incidences qui ne sont pas sans expliquer éventuellement le malaise de la jeunesse actuelle. Et quand on voit justement ce que je te disais tout à l'heure, des jeunes comme Fabien qui veut garder ce côté un petit peu rebelle, un petit peu, enfin promouvoir cette culture ou cette contre-culture qui est la custom culture ou le style rocker, c'est d'abord un biker, un vrai, qui fait aussi pas mal de dizaines ou centaines de milliers de kilomètres régulièrement, et qui ne veut pas rentrer dans un moule et ne veut pas, surtout pas, porter ce que l'establishment impose à tous les bikers, les trucs qu'on trouve dans tous les magasins, qui ressemblent à tout à rien, qui viennent d'on ne sait où, et qui sont vendus une blinde. Et un petit peu lassé de tout ce qu'on veut lui imposer, s'est dit, mais les têtes de mort, les trucs, les machins, il y en a marre. On n'est pas des porte-manteaux de marque. Je vais faire ce que nos aïeuls ont fait quand ils ont lancé les Perfect Company, c'est que je vais essayer de créer une ligne de vêtements. Alors, la première chose pour une ligne, c'est d'avoir une marque. Et il a créé la marque Stirrer en français, S-T-I-2-R-E-R, qui veut dire quelque part, en vulgarité, fouteur de merde, quelque part. Enfin, c'est un agitateur. Agitateur d'idées, agitateur de conscience, agitateur de mouvement. C'est quelqu'un qui... au travers de sa ligne de vêtements, qui est traitant de couleurs quelque part, qui est blanche et noire. C'est éminemment manichéen, c'est blanc ou noir, mais ça peut être yin-yang aussi, c'est-à-dire que tout est dans tout. Donc, il a voulu, et il l'a fait d'ailleurs, il a créé sa ligne de vêtements qui est assez étonnante, qui est très pure, et qui se rapproche quelque peu du monde des surfeurs, des kitesurfs, etc., des skaters, et du monde de la moto aussi. Donc, c'est quelque chose d'assez large, parce que, au fond, ce qu'on s'est dit depuis ce matin, c'est que cet esprit un peu rebelle, cet esprit, encore une fois, disrupteur, un petit peu, pas marginal, mais à la marge d'un système, perdure parce qu'on a des jeunes comme ça qui ont la moelle de pouvoir, encore une fois, lancer et créer, et recréer, régénérer des histoires, des mythes. Et il faut encourager ça parce que c'est ce qui nous donne aussi la fraîcheur d'esprit et ce qui donne aussi beaucoup d'espoir pour les générations futures.
Très bien, Daniel. Eh ben, cette fois-ci, je pense qu'on a fait le tour sur les vêtements emblématiques.
Ah, que du bonheur.
Alors, des motards, des bikers, mais de tout le monde, en fait, finalement.
Tu vois, au fond, au bout du bout, ce qui était à l'époque stigmatisé comme étant des voyous, etc., on s'aperçoit que maintenant, c'est devenu des emblèmes, ce sont devenus des totems, ce sont devenus des idoles.
C'est ça. Alors, actuellement, dans le monde de la moto, qui porte encore ce blouson, on n'en voit plus trop, quand même.
Alors, Enfin, je sais pas, moi je porte le mien, mais si, quelque part, c'est porté. Mais maintenant, c'est plus porté comme des vêtements d'apparat, des vêtements de sortie, que des vêtements de moto. Ça, faut reconnaître. Bon, en plus, t'as l'énorme castatrice aussi, avec les trucs CE, les machins, les voilà, qui font que maintenant, il faut mettre un certain nombre de protections, ce qui est plutôt bien. Mais
dans les années 50, quand on regarde un petit peu ce qui se passait à Londres, à l'Escafé, tu te souviens, je sais pas si tu connais l'histoire, tu mets une pièce dans le jukebox, et puis il y avait un trajet à faire, il fallait revenir avant que la musique s'arrête.
Tout à fait.
Et ils avaient, donc c'était des Norton, des Triumph, des BSA, tout ce que tu veux, et ils étaient tous avec un Perfect. Hein.
Tout à fait, oui, absolument. Et puis, alors, les protections, je t'en parlais, alors, à l'époque, c'était les Cromwell,
donc là,
pour ceux qui en mettaient.
Il n'y avait que ce vêtement-là qui était accepté par les bikers.
Et ça l'est toujours. Donc, l'histoire continue, elle évolue, elle s'améliore, elle se peaufine, mais elle continue, elle ne s'arrête pas.
Merci Daniel pour cette aventure du vêtement et du perfecto. Merci encore.
Merci la miche. Let me see those beautiful hands up on the fucking air. Your navel has lined there, let's go!
You know you're a little less there and just discarded. Here we go.
Voilà, l'émission se termine. Et Patrick est encore avec nous dans les studios, notre Ardéchois. Ben, bon retour là-bas en Ardèche.
Et merci puis, pour votre accueil.
Voilà, et puis on essaiera de faire des petites balades là-bas, en super région quand même. Bah Laurent, merci pour cette technique au millimètre.
Ouais, ouais, mais c'est cool.
Passez un bon dimanche, rendez-vous forcément dimanche prochain, 11h, même endroit, sur le 106,6 de Radio Campus Lille.
Au revoir.